Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans l'émission cette semaine, nous avons décidé d'aborder la situation du Parti Socialiste après le congrès de Marseille. Ce congrès qui a fait beaucoup de bruit, surtout à l'intérieur du parti, avec dans un premier temps des divisions, des contestations, et puis finalement un semblant d'unité à la fin, au moment où le congrès se terminait à Marseille avec l'ensemble des délégués de ce parti. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Garrigue. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et vous avez sorti récemment un ouvrage, Élysée contre Matignon de 1958 à nos jours, aux éditions Taliandier. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Jean, c'est est-ce que le congrès de Marseille est une réussite ou est-ce qu'au contraire, ça laisse un goût un petit peu amer et en particulier aux membres de ce parti?
Écoutez, je crois que la réponse est un peu dans votre question, parce que il est évident que, si l'on en croit d'ailleurs tous les observateurs, ce qui s'est passé au cours de ce congrès a reflété d'une part la division profonde du Parti Socialiste, tout ce qui en reste, et effectivement avec quelques milliers de militants, ça n'est plus une force majeure. Et puis deuxièmement, une division quand même qui pose des problèmes pour l'avenir et qui hypothèque de manière assez forte ce que pourrait être l'avenir de ce parti, en tout cas dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire dans cette coalition qui s'appelle la NUPES.
Alors justement, il y a eu deux temps dans ce congrès du Parti Socialiste. Il y a eu un premier vote qui était à peu près, pour simplifier, pour ou contre la NUPES. Le texte d'Olivier Faure, qui était clairement pour l'accord NUPES, fait 49%. En même temps, il y a un texte qui est clairement anti-NUPES, c'est celui d'Eugène Geoffroy, qui fait 20%. Et au milieu, un troisième texte qui essaye un petit peu de couper la poire en deux. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre si le parti s'ancre durablement dans la NUPES ou bien s'il y a encore effectivement des tensions qui laissent présager peut-être une sortie de cet accord électoral.
Ben effectivement, c'est quand même la question majeure qui s'est dégagée. Hélas, d'ailleurs, parce que ce qui aurait été souhaitable pour justement à long terme, c'est d'avoir une vraie réflexion sur le fond de ce que pourrait être la ligne du Parti Socialiste. Mais vous avez raison, c'est cette question-là qui a dominé et qui n'a pas véritablement été tranchée en réalité du fait justement de ce faible écart entre la ligne d'Olivier Faure, qui est favorable à un maintien de la coalition, de la NUPES, et puis celle de Nicolas Meyer-Rossignol. Alors, c'est vrai que la ligne que défend Meyer-Rossignol n'est pas une ligne d'opposition catégorique à la NUPES, c'est-à-dire c'est une ligne de méfiance vis-à-vis de la NUPES, tandis que la motion d'Hélène Geoffroy, qui elle y était hostile, a été minoritaire. Ce qui veut dire que pour la plupart des militants socialistes, l'alliance qui a été contractée pour les élections législatives de 2022 a été une bonne chose. Elle a permis de sauvegarder une partie des sièges du Parti Socialiste qui était quand même très menacé, notamment après le très faible score d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Donc pour une majorité manifestement de militants socialistes, en tout cas du Parti Socialiste, l'alliance est quelque chose de positif. Mais si l'on observe ce qui est prévu pour les élections européennes, à savoir qu'il n'y ait pas de liste commune, qu'il n'y ait pas une véritable liste NUPES, on voit bien à quel point l'alliance est fragile et contestée, et donc contestable, y compris par ceux qui, aujourd'hui, vont être de facto inclus dans la direction du Parti Socialiste, c'est-à-dire les partisans de Nicolas Meyer-Rossignol. Donc voilà, on est dans une situation extrêmement ambiguë, y compris par rapport à cette alliance. Et alors, sur le fond, cette alliance pose quand même un problème à l'historien que je suis, puisque, justement, si l'on s'inscrit dans le long terme, on voit bien que lorsque la gauche a pu accéder au pouvoir, c'est précisément quand était majoritaire au sein de cette gauche une ligne, on va dire, réformiste, social-démocrate ou républicaine, et que lorsque c'était une autre ligne qui prédominait, un peu à l'instar de ce qu'est aujourd'hui la France insoumise, eh bien l'accession au pouvoir était quasiment impossible. Donc ça pose un problème de conquête du pouvoir, au-delà même des problèmes que ça peut poser aujourd'hui de cohabitation au sein du Parti Socialiste.
Alors, on l'a vu, il y avait deux enjeux principaux dans ce congrès. Il y avait la question des alliances et de l'accord pour poursuivre la NUPES ou bien pour en sortir. La deuxième question, clairement, c'était qui doit diriger le parti dans les trois années qui viennent. Et là aussi, mais peut-être aussi parce que le résultat du premier vote était déjà assez serré, on a eu une confrontation frontale, brutale, entre deux personnalités, Olivier Faure, qui vous souhaitez appeler de ses voeux une reconduction de son mandat, et un outsider, un nouvel entrant, peu connu à ce stade dans la vie politique, Nicolas Meyer-Rossignol, qui malgré tout a mis un petit peu en difficulté Olivier Faure, et avec y compris de fortes contestations et un résultat au final qui est extrêmement serré, de l'ordre de 51-49 pour Olivier Faure.
Tout à fait. Non, mais ça veut bien dire que la ligne d'Olivier Faure, qui, je le répète, a été, non pas plébiscitée, mais en tout cas acceptée par une majorité de militants et sans doute d'électeurs au départ, parce qu'elle s'était au fond avérée positive pour le maintien du Parti Socialiste, en tout cas son maintien électoral, cette ligne-là, aujourd'hui, elle est de facto contestée. Et c'est ce qui explique l'émergence de Nicolas Meyer-Rossignol. Même si lui-même ne conteste pas absolument l'alliance de la NUPES, il est le porteur, justement, de ses hésitations, de ses critiques. Alors d'autres porte une critique beaucoup plus ferme, comme justement Hélène Geoffroy et d'autres, peut-être Carole Delga et d'autres barons, j'allais dire, du Parti Socialiste.
François Hollande aussi, lui-même.
Alors, voilà, plus alors ce que j'allais dire, les éléphants.
Les anciens grands dirigeants de ce parti.
Voilà, François Hollande, Bernard Cazeneuve, qui s'est mis hors du jeu, mais qui le surveille attentivement, Stéphane Le Foll. Donc ça montre bien qu'il y a dans la famille socialiste, qu'elle soit d'ailleurs au sein du parti ou s'étant extraite du parti, il y a cette divergence et cette critique sur la stratégie même de l'avenir du Parti Socialiste. Donc on voit bien à quel point c'est une situation extrêmement précaire pour Olivier Faure, et je ne parle même pas de la perception par l'opinion publique en général de ce problème rencontré par le Parti Socialiste. Et quand je dis problème, c'est un euphémisme, enfin de l'impression que ça donnait d'avoir des tricheries au moment du dépouillement des votes, etc. Tout ça a donné l'impression d'un navire dans la tempête et qui est en passe de sombrer. Ce que je ne crois pas, d'ailleurs, mais l'impression a été très négative pour l'opinion publique et pour les potentiels électeurs futurs du Parti Socialiste.
Alors, il y a une autre critique qui était faite à l'encontre d'Olivier Faure et de la direction sortante, c'était le risque d'effacement du parti, lié d'abord, évidemment, à la NUPES, mais aussi antérieurement au débat qui avait eu lieu sur l'élection présidentielle, faut-il ou non un candidat, et aussi encore en amont à des déclarations d'Olivier Faure sur peut-être effectivement l'absence de candidat socialiste à l'élection présidentielle, la tête de liste aux européennes aussi laissée à un non-socialiste, et finalement... Nicolas Meyer-Rossignol et Hélène Geoffroy disaient si on continue comme ça, on va poursuivre cet effacement à des scrutins importants, avec en perspective effectivement une élection européenne. Et là, sur ce plan-là, eh bien, Olivier Faure a été obligé de donner des gages.
Tout à fait. Il avait même proposé donc à Nicolas Meyer-Rossignol de prendre la tête de liste pour les élections européennes. Ce qui me semble aujourd'hui pas du tout acté, c'est effectivement le problème qui se pose et celui de l'effacement. Moi, je pense qu'il faut évidemment absolument conserver la marque Parti Socialiste, même si il est arrivé dans l'histoire du socialisme que cette marque évolue. Ça s'est appelé la SFIO et puis ensuite le Parti Socialiste. Mais cette marque, à la limite, elle peut, dans son intitulé, évoluer. Mais il faut que reste cette structure, que reste cet héritage, ce patrimoine. Et donc, ça veut dire qu'au moment des élections, et des élections décisives, y compris les élections intermédiaires, il y ait un candidat socialiste clairement identifié comme socialiste. Mais ça pose aussi, au passage, le problème du charisme. Parce que, évidemment, là encore, ce que l'histoire nous enseigne, c'est que lorsque le Parti Socialiste a été au pouvoir ou associé au pouvoir, il y avait toujours un leader charismatique. Que ce soit Jean Jaurès, Léon Blum, même Guy Mollet, à une époque, François Mitterrand, c'était des leaders.
Rappelons Lionel Jospin aussi.
Lionel Jospin, bien sûr.
Et puis François Hollande.
Et François Hollande, qui a été beaucoup critiqué ensuite lors de sa présidence.
Mais qui avait remporté la primaire de 2011 face à d'autres poids lourds.
Et qui était un vrai leader, et qui avait été d'ailleurs premier secrétaire, et qui était un vrai leader, qui pouvait incarner sa famille politique. Et évidemment, ça amène à un grand reproche qui a été fait, à tort ou à raison, je ne prends pas parti là-dessus, sur Olivier Faure, dont évidemment beaucoup ont critiqué l'absence de charisme, l'absence de leadership, la difficulté à incarner un leadership, y compris justement d'ailleurs dans les atermoiements qui ont été les siens, notamment par rapport à l'alliance avec la NUPES. Alors ça, c'est aussi évidemment un gros problème, me semble-t-il, qui se pose pour l'avenir, parce que si Olivier Faure, et c'est le cas, n'est pas incontestable, voilà la manière dont je voulais le dire, pas incontestable pour diriger la famille socialiste, et je parle de famille au-delà du parti, parce qu'il y a des associations, aussi des syndiqués qui sont proches du Parti Socialiste, à la CFDT par exemple, ça pose quand même un énorme problème pour l'avenir.
Alors, on peut effectivement s'interroger sur les questions liées au leadership. Le moindre des paradoxes de ce congrès, ça aurait été Nicolas Meyer-Rossignol avait réussi à renverser la direction sortante et Olivier Faure, de remplacer Olivier Faure, qui certes n'est pas une personnalité très connue au plan national, mais qui commence quand même à faire son chemin, par, pour le coup, quelqu'un de totalement inconnu, le maire de Rouen, sans le vouloir lui faire injure, hein, c'est un élu tout à fait respectable, mais quand même au niveau national, il a fait une percée parce qu'il était totalement invisible et inexistant auparavant.
Oui, vous avez complètement raison. Là, ça aurait été vraiment là aussi un paradoxe, ou de même pour Hélène Geoffroy, qui, oui, de manière incontestable, n'ont pas encore la dimension justement d'un Olivier Faure. C'est la raison pour laquelle l'issue à court terme, c'est plutôt d'avoir une sorte de direction collégiale qui permette justement de donner sa place à chacun d'entre eux, avec des secrétaires généraux adjoints, après ce que j'ai vu. Alors, Meyer-Rossignol, je crois, avait plutôt souhaité un secrétariat général délégué qui lui donnerait des pouvoirs similaires à celui de à ceux d'Olivier Faure. Bon, toujours est-il que quel que soit le contexte ou l'organisation choisie, il faut effectivement dans l'immédiat avoir une forme de collégialité qui permette d'incarner les courants, à défaut d'avoir justement une personnalité qui s'impose comme ça. Mais la personnalité, elle pourra s'imposer dans les années qui viennent, à condition aussi que tout le monde se mette d'accord sur le projet, sur l'orientation, sur la définition même de ce qu'a être, de ce que devrait être la ligne du Parti socialiste. Et là encore, il y a encore beaucoup, me semble-t-il, d'incertitude, d'obscurité. Et ça, c'est toujours très mauvais pour une famille politique.
Alors, Jean Garrigue, on va faire une petite pause avant de reprendre pour la deuxième partie de l'émission. Donc, je vous propose de quitter l'antenne pour quelques instants. Et puis, nous reprendrons ces échanges passionnants dans la seconde partie de l'émission. Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée à l'analyse de la situation du Parti Socialiste après le congrès de Marseille. Pour aborder cette analyse et faire le point sur cette situation, j'ai le plaisir d'avoir Jean Garrigue avec nous. Jean, donc je rappelle pour nos auditeurs qui auraient raté la première partie de l'émission que vous êtes historien. Et puis, on était donc sur cette direction collégiale qui a été mise en place inextrémiste, à l'issue quand même d'un psychodrame. On est clairement dans ces congrès du Parti Socialiste qu'on pourrait qualifier de fratricide. Il y en a eu dans l'histoire. On se rappelle du congrès de Rennes en 1990. On se rappelle aussi de la confrontation extrêmement dure entre Martine Aubry et Ségolène Royal au congrès de Reims en 2008. On a été dans cette ambiance-là jusqu'à samedi. Et puis... Oui. Finalement, pour que la photo soit réussie, peut-être même pour que le maire de Marseille accepte de rentrer dans la salle, un accord est trouvé avec un premier secrétaire renouvelé, un pacte de gouvernance avec ses opposants, et en particulier Nicolas Meyer-Rossignol qui devient premier secrétaire délégué avec Johanna Roland et Hélène Geoffroy qui préside le Parlement du parti, le Conseil national. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette photo finale ?
Non, c'était une nécessité, c'était, j'allais dire, une urgence par rapport à l'image qui avait été donnée dans les jours précédents. C'est une solution in extremis qui est, à mon sens, la moins pire. Hein. Franchement, dans l'immédiat, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, en l'absence d'un leadership incontesté, il est nécessaire d'avoir une collégialité et une collégialité qui rende compte de la pluralité des opinions et des courants au sein du Parti Socialiste, et c'est le cas. Ce qui s'était passé lors du congrès de Rennes ou lors du congrès de Reims, c'était finalement un rapport de force entre deux courants, entre deux personnalités, à Rennes entre Fabius et Jospin, et à Reims entre Martine Aubry et Ségolène Royal, et l'une des deux à Reims prenant l'avantage sur l'autre. Mais on était dans un contexte quand même très différent, puisque on était en présence à Rennes d'un parti socialiste qui était au pouvoir, et puis à Reims d'un parti socialiste qui était la principale force d'opposition et en passe de pouvoir reprendre le pouvoir en 2012. Là, on est dans une situation de reconstruction totale, avec un parti socialiste qui est vraiment à l'étiage, qui a des forces encore, puisqu'il y a un groupe de députés, il y a un groupe de sénateurs, il y a des collectivités locales, il y a des régions. Donc c'est pas un parti qui est mort, pas du tout. Moi je crois pas du tout à ça. Mais dans l'immédiat, je le répète, s'il peut y avoir reconstruction, elle doit se faire dans la collégialité. En revanche, ce qui va se passer, c'est que très très vite, et notamment pour les élections intermédiaires, il y a des choix qui vont être faits. Pour ce qui est de la question de la réforme des retraites, le choix a été fait d'une forme d'alignement sur la NUPES et sur les positions de LFI. C'est d'ailleurs contesté au sein même du Parti Socialiste, ce qui pose quand même un gros problème, parce que c'est une question majeure. Mais en tout cas, ces questions-là, de ligne, elles vont se reposer à plusieurs reprises. Quelle Europe, quelle politique nucléaire, enfin bref, tous les grands enjeux qui se posent aujourd'hui vont se poser au sein du Parti Socialiste. Et là, moi, je crains que, en dépit de la collégialité, on assiste à nouveau à des discussions qui pourraient même déboucher sur des dissidences ou sur des scissions. Bon, moi, je ne suis pas prophète, évidemment, personne ne peut le dire, je crois, encore aujourd'hui, mais voilà, il y a un avenir là qui est quand même lourd, il y a de gros nuages, je dirais, sur cet avenir.
Alors, est-ce que on pourrait dire en d'autres termes que c'est aussi l'affaiblissement du Parti Socialiste dans sa force militante, hein. Il y a eu environ 23 000 votants, alors que dans les grandes années, on était à plutôt 100 000, près de 100 000 ou plus de 50 000. Est-ce que c'est aussi lié au contexte? On est dans un conflit social qui se cristallise autour de la question des retraites. Finalement, est-ce que les socialistes avaient le choix de continuer à se diviser, ou est-ce qu'ils n'étaient pas obligés, à travers la collégialité, mais qui est aussi un affichage politique, de s'entendre, parce que sinon, finalement, ils seraient devenus peut-être totalement inaudibles et définitivement discrédités dans l'opinion?
Ah oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'entends, je vois la meute journalistique, bien souvent, qui déjà semble avoir acté la mort du Parti Socialiste. Ce que je ne crois pas, et ce que démente d'ailleurs le constat de leur force, en tout cas électorale et de leur force politique, pour être très plus précis. Je pense qu'il y a une reconstruction à effectuer, comme c'était le cas à la fin des années 60, hein, quand on est revenu ensuite à une stratégie que François Mitterrand a élaborée après le congrès d'Épinay. Il y a une reconstruction à faire, et là, c'est vrai que pour ne pas être complètement inaudible, il fallait trouver cette solution d'alliance, mais qui n'est malheureusement qu'une solution tout à fait provisoire. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois, et qui ouvre encore à de gros questionnements. Et puis il y a un autre questionnement qui me vient là, forcément, c'est de savoir quelle place le Parti Socialiste va désormais jouer dans la famille socialiste. Je ne parle même pas de la famille de la gauche, mais comme on le disait tout à l'heure, on a un certain nombre de grandes figures de l'histoire socialiste et de l'histoire récente, comme François Hollande, Bernard Cazeneuve et d'autres, et qui sont aujourd'hui hors du Parti Socialiste, ou en tout cas politiquement, voilà. Qui donnent cette impression, et quel va être leur rôle dans ce processus de reconstruction. On a bien l'impression qu'ils ont, ils entendent bien participer à cette reconstruction. Ça veut dire qu'ils doivent se nouer des discussions, officielles ou non, ça, il leur appartiendra de le faire. Est-ce que ça se fera au détriment du Parti Socialiste d'Olivier Faure? Est-ce que ça se fera avec? Ça pose des tas de questions qui peuvent être d'ailleurs très, j'allais dire, très enthousiasmantes pour l'avenir, pour la reconstruction du Parti Socialiste, parce que tout est à faire. Mais qui pose des problèmes aussi d'ego, de personnes. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde politique qui est hyper personnalisé, parce que l'élection présidentielle écrase tout. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui se posent et qui, pour l'instant, sont loin d'être résolues.
Alors justement, ça sera une de mes dernières questions. C'est un petit peu la prospective, c'est difficile de faire des prédictions. Mais comme vous l'avez dit, le Parti Socialiste n'est pas mort. Pourtant, Dieu sait que les commentateurs l'ont annoncé moult et moult fois. Et on a des exemples aussi en France de partis très anciens qui ont été historiquement très puissants au plan national. On pense au Radical Côte-Gauche, au Parti Radical, qui existe toujours, qui a toujours des élus. même si au niveau national, il n'a plus d'incarnation et plus de visibilité. On pense aussi au Parti communiste, à gauche, oui. qui a été longtemps un parti dominant avant eh bien, de s'écrouler nationalement. On l'a vu encore avec le score de Fabien Roussel, mais ça, il n'empêche qu'au niveau local, il a encore des municipalités, il a encore oui. des élus et il se maintient, il résiste. Alors, est-ce que finalement, ça ne peut pas être un scénario? Le Parti socialiste, avec beaucoup d'élus locaux, reste un parti puissant au niveau local, mais pour des raisons stratégiques, de lignes, d'alliances, de leaders, il est durablement affaibli au niveau national et peut-être supplanté eh bien, par d'autres forces.
Alors c'est vrai que c'est une issue possible. Je dirais pas qu'elle est probable, elle est possible. C'est vrai un avenir à la partie radicale ou c'est vrai comme un peu comme ce que représente aujourd'hui le Parti communiste. La différence, me semble-t-il, c'est que dans je dirais le potentiel idéologique et même sociologique que représente le Parti socialiste. Son histoire, son patrimoine, il y a quelque chose qui le rattache à la conquête du pouvoir et à l'exercice du pouvoir, une forme de légitimité que, par exemple, le Parti communiste ne peut pas avoir. Alors, c'est vrai que c'est le cas du Parti radical, mais le Parti radical...
Ça fait longtemps. C'est un peu loin, maintenant.
Correspondait à la France de la Troisième République. Le Parti socialiste, il a une histoire sous la Cinquième République. Il a montré qu'il était capable d'exercer le pouvoir, qu'il y a eu des hommes d'État qui l'ont exercé, et une politique qui finalement collait avec l'évolution de la société française, même si évidemment avec toutes les réserves, toutes les critiques qui ont été portées sur les moments socialistes, comme d'ailleurs sur les moments où la droite était au oui. pouvoir. Ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien aujourd'hui que d'autres courants idéologique, on va dire un courant social-démocrate au sein de la famille socialiste, qui en grande partie est parti du côté justement d'Emmanuel Macron, même si l'infléchissement à droite d'Emmanuel Macron a libéré justement un espace politique nouveau. Et moi je pense profondément que dans ce qui va se passer maintenant sur le plan politique, c'est-à-dire la dislocation du bloc macroniste, de facto, une force politique comme le macronisme ne tient que par le charisme, le leadership de son leader. Il va s'effacer progressivement de la scène politique. De facto, en 2027, il sera plus là. Et donc, il y aura de facto, là aussi, un espace au centre-gauche pour reconstruire quelque chose, pour refaire éventuellement une forme de social-démocratie. Alors, évidemment... une sorte de social-démocratie rénovée, notamment par l'éco-socialisme, par tout ce qui est aujourd'hui a transformé profondément la gauche française. Mais moi, je pense que, à la différence de ce qui peut du Parti radical ou même du Parti communiste plus à l'extrême, il y a un espace politique que pourrait désormais réinvestir la famille socialiste. À condition évidemment de se mettre d'accord sur des lignes assez claires, que ce soit en termes de politique économique, de réforme sociale, en gardant son identité réformiste et voire révolutionnaire. Bon, ça c'est, il appartiendra aux socialistes de la définir. Mais je pense qu'il y a véritablement un espace, y compris sociologique, au sein des classes moyennes. Alors je ne parle pas forcément du monde ouvrier qui a basculé de manière massive vers le Rassemblement National, et ça a été une des grandes erreurs de la gauche que d'avoir permis ce basculement. En tout cas, il y a dans les couches moyennes salariées, me semble-t-il, un gisement, un potentiel, et dans l'espace politique, une véritable opportunité, me semble-t-il, pour recréer une famille socialiste, en tout cas plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et ça sera ma dernière question. Justement, est-ce que vous n'êtes pas surpris par l'atonie du débat à gauche sur cette recomposition qu'on sent venir, y compris parce que On voit aussi quand même l'affaiblissement de la LFI, de Jean-Luc Mélenchon, la contestation. On voit l'état du Parti Socialiste. On sait aussi que chez les écologistes, il y a ce type d'interrogation sur le devenir de cette famille politique et sa place au sein de la gauche. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un déficit d'imagination, de créativité et de volonté finalement de recomposer, hein. Ça a été le cas, on s'en rappelle, à l'époque de la gauche plurielle. Hein. Lionel Jospin et ses partenaires avaient préparé le terrain de la reconquête par des échanges, des débats, des états généraux, des discussions. Là, on a quand même le sentiment d'être dans quelque chose de beaucoup moins intense.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. D'autant plus qu'on voit très bien que la France insoumise est dans une fin de cycle, avec une disparition progressive du leadership de Jean-Luc Mélenchon, contesté, et donc il durcit sa position au sein de
en interne et en externe.
En interne et en externe. Que, au fond, là aussi, la famille écologique a montré, j'allais dire une fois de plus, qu'elle n'était sans doute pas taillée pour être un véritable parti de gouvernement, ou en tout cas pour être la colonne vertébrale d'une
coalition.
Force de gouvernement. Et donc, de facto, on voit bien que c'est du côté de la famille socialiste que devraient se tourner les électeurs, justement, par rapport à cette reconstruction, mais à condition, effectivement, que cette reconstruction se fasse par le dialogue, la concertation, la réflexion avec les autres familles de la gauche, effectivement avec la refondation d'une gauche plurielle, mais une gauche plurielle qui ne soit pas axée sur la France insoumise, dont on voit bien qu'elle n'est pas, sa culture n'est pas une culture de gouvernement, mais qu'elle soit à nouveau recentrée sur une force social-démocrate rénovée. Moi, je pense que ça me paraît être la seule issue possible pour une véritable reconstruction de la gauche.
Merci beaucoup, Jean Garrigue, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire, également auteur d'un ouvrage qui est sorti aux éditions Talendier, Élysée contre Matignon, de 1958 à nos jours. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions autour de l'avenir du Parti Socialiste et de cette grande famille politique. Merci beaucoup.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.